Bien, chers amis, nous voulons ouvrir notre Bible pour lire le passage déjà évoqué et partiellement parcouru hier soir dans le livre de l'Exode. Exode au chapitre 17, nous relisons les versets 8 à 16. Versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors, Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Et Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière, Yahvé Nissi. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15, 1 Samuel chapitre 15, nous lisons les 10 premiers versets. 1 Samuel chapitre 15, les 10 premiers versets. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Telaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi » et il n'observe point mes paroles. Merci à notre ami qui introduisait en résumant quelques-unes des pensées fortes de notre soirée d'hier. À la lumière du premier texte qui évoque les relations particulières entre Moïse, l'octogénaire, et son cadet, son serviteur, son auxiliaire, Josué, environ 40 ans de moins. À la lumière de ce premier texte, donc d'Exode 17, nous avons souligné que pour vivre une vie chrétienne conquérante, il importe de se souvenir tout d'abord que le disciple de Christ est un combattant. Un combattant. Dès notre nouvelle naissance, Satan nous inscrit dans son carnet d'adresse. Nous avons opposé hier soir, dans le cadre de ce chapitre, après une assez longue introduction, le bon ou le beau combat, dont parle l'apôtre Paul, notamment à son enfant dans la foi, Timothée, avec le mauvais combat, celui qui consiste à viser dans la mauvaise direction. Je disais hier soir que vous êtes bien installé pour vous tirer dessus. Que Dieu vous garde dans ce domaine. Il y a donc un mauvais combat qui consiste à tirer sur ses frères et sœurs, notamment au moyen de la langue. Je travaille actuellement depuis un certain temps déjà toute une série d'études uniquement consacrées à l'utilisation de cet organe extraordinaire, 60 grammes, 10 cm de long, très léger et pourtant si lourd à porter, la langue. Et il est évident que la langue est un de ces instruments que nous utilisons si facilement dans le domaine du mauvais combat. Peut-être savez-vous que, après des études fouillées sur la question, les statisticiens ont conclu qu'un homme, homme et femme, dans le sens le plus large du terme, parlait en moyenne, un livre de 150 pages chaque jour. Eh oui, mes amis. Ça fait quand même 365 livres par an et 366 pour les années bissextiles. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. De quoi nous faire réfléchir? Nous avons à nous préoccuper ce soir des caractéristiques de ce combat. Nous allons essayer d'aller au bout de ce thème pour prendre un autre texte à partir de demain soir. Et nous avons déjà souligné une chose hier soir, à savoir que nous combattons contre un ennemi rusé qui rôde. Deutéronome 25, versets 17 et 18. Par derrière, sur les traînards, sur ceux qui étaient fatigués, épuisés. Une sorte de contestation à la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Le refus d'accepter la rupture avec l'esclavage. Soyez sobre. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Faisons ce soir une deuxième remarque pour souligner, c'est évident dans le texte, nous avons à combattre contre Amalek. Amalek. Et il importe que nous sachions à quel genre d'ennemi nous avons affaire. Qui était Amalek? Nous avons évoqué hier soir en parlant de la fatigue, nous avons même lu le texte, concernant la manière dont Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et c'est intéressant parce que nous étions au cœur du sujet, puisque Amalek est petit-fils d'Ésaü. Il est de la lignée d'Ésaü. Il a le même type de caractère que le père de ce groupement, de cette branche. Et nous avons souligné hier soir, à la lumière d'ailleurs du Nouveau Testament, qu'Ésaü est profane Il vit hors du sanctuaire, c'est un matérialiste. Son centrage, son centre de gravité, c'est le boulot. C'est le travail. C'est l'homme du métro-boulot-dodo. Et les préoccupations spirituelles sont tout à fait secondaires. À l'inverse de Jacob, qui est un fourbe, un rusé, un trompeur, tout ce que vous voulez, il avait vraiment réuni dans sa personne pas mal de défauts, mais il avait une qualité fondamentale. C'est que c'était un homme qui avait soif de la bénédiction de Dieu. Et quand Dieu rencontre sur sa route des hommes et des femmes qui ont soif de sa bénédiction, aussi loin soit-il allé de lui, alors, même s'il y prend le temps, et cela a pris 20 ans pour Jacob, et il a fallu que Jacob rencontre son propre visage dans un miroir qui s'appelait Laban, plus fourbe que lui, plus rusé que lui, plus trompeur que lui, qu'il a roulé sous toutes les coutures pour que Jacob réalise. Et c'est souvent comme ça que Dieu fait avec nous. Mais il avait soif de Dieu. Ésaü, le matérialiste, et c'est ce qui me fait dire que l'ennemi subtil du disciple de Jésus-Christ, le premier ennemi peut-être qui se dresse sur sa route, quand il veut aller à la conquête, en quelque sorte, du pays promis. Eh bien, dans nos pays, c'est le matérialisme. Le matérialisme d'Amalek, le matérialisme d'Ésaü, le confort, l'abondance, la vie facile, j'entends matériellement facile. Le premier ennemi qui se dresse sur notre route, c'est ce que la Bible appelle la chair. La chair. Oh, un terme qui a différents sens dans les Écritures, mais dont un des sens consiste à évoquer les convoitises, les désirs coupables du cœur naturel. Ce que j'aime appeler, selon le mot qui n'est pas de moi, mais de la maréchale Booth, l'hippopotame-moi. On se comprend, hein, il n'y a pas besoin de faire des dessins. Ceux qui connaissent les fables de La Fontaine, c'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et cela m'a d'ailleurs valu, dans l'île de la Réunion, que je vais visiter dans très peu de temps, à nouveau, de me faire offrir à la fin d'une série de réunions une magnifique tasse avec un bel hippopotame, en souvenir de l'hippopotame moi. La chair, le moi, la préoccupation de soi, la préservation de la vie propre, l'exaltation du moi, la mise en avant des plaisirs, de la jouissance. Et ça, c'est un de nos gros problèmes. Et nous devons vraiment, durant ce week-end, honnêtement nous poser la question. Est-ce que les tentacules de cette pieuvre ne sont pas en train de nous enserrer et, peu à peu, d'étouffer le premier amour? Et demandons au Seigneur de nous le montrer. Je pense à cette exhortation de Paul à Timothée, dans 2 Timothée 2, 3 à 5, « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Et souffre ici, parce qu'il y a plusieurs termes rendus par le mot souffrir, c'est l'idée d'endurer dans des circonstances d'injustice, d'opposition. Endure dans les situations d'injustice, mais comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu. Et ici, c'est le verbe qui a donné en français le mot athlète, s'il n'a pas combattu selon les règles. Souffrir. Non pas par une espèce de masochisme d'amour de la souffrance qu'on rencontre parfois chez des disciples de Christ qui se plaisent à tirer le diable par la queue comme s'il n'y avait pas assez de problèmes comme ça. Mais nous pouvons être de ceux qui n'acceptent pas de rompre les lances et qui s'installent, qui s'embarrassent des affaires de la vie. Et vous savez qu'il y en a des divinités qui nous coincent. Depuis la télévision qui peut peu à peu grignoter du temps. Et vous savez que c'est vite fait, hein, c'est insidieux. Et un jour, on s'éveille comme Samson sur les genoux de Delilah. Et on pense qu'on est toujours aussi fort. On ne sait pas que la force de Dieu s'est retirée de nous. Mais on a discuté avec l'ennemi et puis peu à peu, il a coupé les tresses les unes après les autres en se servant de la télé et de tant d'autres préoccupations. Je ne veux pas dire, et je le fais par souci d'équilibre, que la télévision en elle-même, soit péché. Le problème, c'est qu'elle est un instrument que le diable utilise avec une plus grande facilité que beaucoup d'autres instruments, parce que c'est un instrument qui mobilise toutes nos facultés. Et de la mauvaise manière, qui les plonge dans une espèce de chloroforme, de passivité, et nous pouvons être si vite manipulés et nous retrouver devant des choses qui font honte au Seigneur lorsqu'il nous voit les regarder. D'où la nécessité d'une grande vigilance dans ce domaine, et peut-être si vraiment la télévision est un problème pour nous, eh bien la parole de Dieu est claire, hein, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Et notre œil, s'il est dans la télé, eh bien nous devons aller le chercher dans la télé et l'arracher. Alors essayez, et vous verrez ce que ça donne. Il y a des moments où il faut être radical si l'on veut pouvoir progresser avec le Seigneur. Importance d'une vie disciplinée. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Toujours cette idée de la course des Jeux Olympiques, de l'athlétisme, et bien sûr Corinthe, l'Achaïe, la Grèce, ça voulait tout dire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, à l'aveuglette, sans avoir de but, souligne le texte. Je frappe, non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé ou disqualifié. Il ne s'agit pas d'une quelconque perte du salut qui n'est pas à envisager dans les Écritures, mais d'une disqualification au niveau des récompenses et éventuellement du service de Jésus-Christ. Dieu peut nous disqualifier déjà même sur cette terre dans notre service à un moment ou à un autre si nous ne jouons pas le jeu. De peur donc d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Ah, le corps. Vous savez qu'on va tout à fait dans l'autre sens aujourd'hui. Il faut laisser le corps, les instincts, le tréfonds de soi s'exprimer librement sous peine d'être brimé. Ce n'est pas l'enseignement des Écritures. Le corps n'est ni à mépriser, ni à exalter. Il doit être l'instrument de l'esprit et de l'âme. Ceci est très important. C'est Michel Quast qui, dans son livre « La réponse chrétienne », dit ceci: « Si votre corps prend toutes les décisions et donne tous les ordres, et si vous obéissez, le physique peut effectivement détruire toute autre dimension de votre personnalité. Votre vie émotionnelle s'éboussera et votre vie spirituelle sera étouffée et finalement s'anémira. » Et c'est vrai que l'esclavage du bien-être ne mène pas loin. Je pense à cette remarque du fondateur de la WEC, la croisade d'évangélisation mondiale, dont la branche française est dans notre fédération. Nous avons vécu durant ces deux derniers jours avec la secrétaire de la WEC en France, qui a été missionnaire pendant 21 ans en Côte d'Ivoire et qui maintenant travaille en France pour faire connaître les besoins missionnaires dans ce domaine. Et donc, Charles Studd écrit notamment ceci: « J'ai l'intention, tant que je serai en selle, de chevaucher et d'entraîner les autres à la charge, et non de me laisser porter au ciel sur un lit de fleurs. Je commence à avoir terriblement peur qu'à la place du feu divin parmi nous, on ne se contente de ce qui pétille et qui mousse. Je trouve qu'un grand nombre parmi nous manque de solidité, qu'on consacre beaucoup plus de temps qu'il ne convient à bavarder et à manger, et qu'enfin, la complaisance envers soi-même remplace trop souvent le sacrifice total de soi-même, base primordiale. Ah, comme nous avons besoin de vivre avec intensité, avec toujours plus d'intensité. Nous devons toujours être au sommet de la vague, et cela d'autant plus que tous ceux qui nous entourent sont dans le creux de la lame du péché. » Après sa conversion à Jésus-Christ en 1877, Charles Studd a vécu 6 années difficiles, qui ont été des années de recul spirituel. Et à la suite d'une mission du revivaliste Moody, en Angleterre, Charles Studd a été très travaillé et a passé quelques 3 mois à lire la Bible et à prier Dieu pour être guidé en ce qui concernait son avenir. Il avait le choix devant lui, soit de répondre à l'appel de Dieu pour un service, ou pour exercer un métier. Normalement, il se préparait pour travailler dans le domaine des lois, pour le barreau, je pense, pour être avocat. Et alors qu'il était en pleine recherche, il lui est tombé entre les mains un tract rédigé par un athée qui sans doute avait connu les choses de Dieu, et c'est ce tract qui a été décisif dans son engagement pour le Seigneur. Écoutez ce que cet athée écrivait. « Si je croyais fermement, comme des millions de gens prétendent le faire, que la connaissance et la pratique de la religion pendant cette vie peuvent influencer notre destinée dans une autre existence, la religion signifierait tout pour moi. Je bannirais les amusements de la terre comme autant de balayures, les soucis de la terre comme autant de folies, les pensées et les sentiments de la terre comme autant de vanités. La religion serait ma pensée première au réveil et la dernière préoccupation de mon esprit avant que le sommeil ne me plongeât dans l'inconscience. Je ne besognerais plus qu'au service de cette unique cause. Je ne me préoccuperais plus de l'avenir que par rapport à l'éternité. J'estimerais qu'une âme gagnée pour le ciel vaut bien une vie de souffrance. La crainte des conséquences humaines ne pourrait retenir mes actes ni sceller mes lèvres. Je ne laisserai à aucun moment ma pensée s'occuper de la terre, de ses joies et de ses chagrins. Je m'efforcerai de ne regarder qu'à l'éternité et aux âmes immortelles qui m'entourent et qui sont destinées à devenir si vite éternellement heureuses ou éternellement malheureuses. Je m'adresserai au monde et je le haranguerai en temps et hors de temps en prenant ce texte, ce verset: que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? De quoi nous faire réfléchir. Oh, je ne veux pas dire, toujours par souci d'équilibre biblique, qu'il ait raison à 200%. Mais son idée juste, cette pensée d'une pleine mobilisation, d'une consécration au Seigneur, où on vit sur la terre en fonction de l'éternité, n'est-ce pas ? Toujours dans une visée d'éternité, dans nos relations avec nous-mêmes, avec notre voisinage, avec ceux qui ont besoin du salut, comme avec l'Église. Là, il a raison. En ce qui concerne certains détails, je dirais qu'il suffit d'être marié, d'avoir des enfants pour se rendre compte que on est obligé de voir quand même les choses un peu autrement et que les Écritures vont dans ce sens. Alors, où en sommes-nous dans ce domaine ? en ce qui concerne Amalek dans notre vie. Est-ce que nous sommes vraiment des combattants qui sommes sensibles à cette première dimension de combat? Je vous laisse un dernier exemple parce qu'il m'a beaucoup frappé. Il est issu de l'histoire de la Grande Grèce. La Grande Grèce qui s'étendait jusqu'en Italie à une certaine époque. Et il y avait dans cette Grande Grèce, dans l'Antiquité, deux cités très différentes l'une de l'autre. Il y avait Sybaris, qui a donné d'ailleurs son nom à une manière de vivre aujourd'hui. C'était une cité opulente, adoratrice du confort, de la vie facile. Et elle avait, non loin d'elle, une autre ville qui existe toujours, qui doit compter quelques 50 000 habitants peut-être, ou plus même, Crotone, qui, elle, avait une philosophie, un sens de la vie beaucoup plus vigoureux, façonné par la philosophie de Pythagore. Et ces deux cités se sont affrontées. Et bien entendu, c'est Sybaris qui a perdu. Dans son opulence, dans ses facilités liées au commerce, cette vie trop facile ne la rendait absolument pas capable de se battre. Et on était allé très loin parce que la cavalerie qui aurait dû défendre Sybaris, eh bien, on lui avait appris à danser. Eh oui, pour les parades, pour les fêtes. Alors on lui avait appris ce qu'on fait, vous avez certainement vu certaines choses de ce genre. Et bien sûr, les Crotoniates, quand ils se sont lancés à l'attaque, ils avaient réussi par ruse à connaître la musique sur laquelle dansaient les chevaux de Sybaris. Et bien entendu, quand les chevaux de Sybaris se sont lancés, ils avaient en face d'eux non seulement la cavalerie des Crotoniates, mais tout un orchestre qui a joué les plus beaux morceaux. Et au lieu de partir à la guerre, les cavaliers étaient sur des chevaux qui faisaient la cabriole et qui se sont mis à danser. Et c'est comme ça que la cité a été prise. Vous savez, il y en a des choses dans l'histoire qui sont riches d'enseignements pour la vie de l'Église. Il y a des choix à faire. Est-ce que nous sommes Crotone ou Sybaris dans notre vie personnelle comme dans notre vie d'église locale? Nous avons évoqué, vous l'avez vu, Amalek dans 1 Samuel 15. Et vous avez remarqué comment Saül est allé à sa perte en voulant épargner Agag. Et puis les meilleures brebis, les meilleures bêtes. Vous savez qu'à la fin du premier livre de Samuel, au début du deuxième livre de Samuel, nous sont racontées les circonstances de la mort de Saül. Il a signé d'ailleurs en quelque sorte son arrêt de mort dans 1 Samuel 15, déjà un petit peu avant, mais en particulier dans 1 Samuel 15. Parce qu'il a révélé son esprit d'autonomie, d'indépendance, son orgueil, qui voulait mener sa vie en se croyant plus intelligent que Dieu. Mais quand on lit le dernier chapitre du premier livre de Samuel et le premier chapitre du deuxième Samuel, on se rend compte que les Amalécites ont joué le rôle dans la mort de Saül. Vous savez qu'il est question d'un jeune Amalécite qui vient apporter un témoignage disant qu'il a tué Saül à sa demande. Bon, on se demande quelle est la part de vérité, quelle est la part d'intox, parce que cet Amalécite avait certainement une idée derrière la tête, peut-être pour avoir la vie sauve. Mais toujours est-il qu'il était là, au moment de la mort de Saül. Vous voyez, quand on refuse d'engager une guerre véritable, quand on refuse de considérer la véritable taille d'Amalek dans nos vies, quand on croit pouvoir vivre une petite vie chrétienne médiocre, quand on refuse de voir en Amalek un géant, la chair est un géant, n'est-ce pas? Quand on voit la place qu'elle occupe dans les Écritures, mes amis, si nous avons la même attitude que Saül, nous retrouverons Amalek sur notre route. Et nous serons tôt ou tard défaits, peut-être très gravement, par lui. C'est pourquoi j'aimerais dire en troisième lieu que notre guerre, la guerre dans laquelle nous sommes engagés, est une guerre totale. C'est une guerre totale. Pourquoi pouvons-nous dire cela? Parce que dans Exode 17, nous remarquons que la guerre est dans la plaine et sur la colline. Elle est avec l'épée et avec la verge. Elle est dans l'énergie d'une armée qui est déployée sur le terrain, sur le champ de bataille, là en bas, tout en étant engagée à fond dans une autre forme de combat, partiellement même physique. Il mobilise les énergies de trois hommes, là-haut, sur la colline, dans la prière, trois hommes qui comptent sur le Seigneur. Et c'est vrai que dans Exode 17, le combat est spirituel. Ce qui nous est enseigné dans Exode 17, c'est que notre combat est d'abord un combat spirituel. Que si nous n'avons qu'un combat humain, matériel, charnel, nous allons à la défaite. Et généralement, tous les commentateurs et celui qui a apporté un message sur ce texte va insister sur ce qui se passe sur la colline. Pour souligner que tout dépend précisément de notre relation avec Dieu, de la manière dont on utilise dans la soumission à Dieu son autorité, de notre exercice de la foi dans la vie de prière, du combat d'équipe sur lequel nous allons revenir. Mais on a quand même un petit peu tendance parfois à oublier complètement qu'il y avait quand même Josué qui se battait en bas. C'est vrai que l'issue des phases de la bataille était déterminée par ce qui se passait sur la colline. Mais en attendant, Josué était sur le terrain quand même. Il se battait quand même, il mettait en œuvre une stratégie quand même. Et j'aimerais ici souligner que dans notre combat, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant qu'Église, les détails pratiques comptent. Rien ne doit être négligé sur le terrain. Nous ne pouvons pas nous permettre non plus d'être simplement sur la colline. Il y avait les deux. Il y avait la colline et il y avait le champ de bataille. Et il faut que nous, dans ce domaine, nous soyons à la fois Moïse et Josué. Je ne peux pas me permettre d'être seulement Moïse, parce que je suis incarné face à des réalités matérielles, physiques, morales. Et je ne peux pas non plus, bien sûr, je ne dois pas non plus me contenter d'être un Josué qui vit simplement au contact des réalités terrestres, puisque ces batailles ne se gagnent que dans les lieux célestes, avec des armes spirituelles. Je pense à Néhémie 4, verset 3, « Nous avons prié Dieu ». Et à cause d'eux, de tous ces ennemis qui contestaient la reconstruction de Jérusalem, à cause d'eux, nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Nous avons prié et nous avons établi une garde. Ça, c'est l'équilibre des Écritures. Je pense à un bel exemple dans la confrontation entre le berger en culotte courte, David, et le géant Goliath. Vous avez dans les versets 38 à 42 d'1 Samuel 17 un passage qui est passionnant, qui montre comment tout d'abord David endosse l'armure que lui impose pratiquement Saül, et il essaye de se promener un petit peu dans cette armure et puis se rend compte que c'est un terrible handicap, il n'est pas du tout accoutumé, c'est très lourd à porter tout ça, et puis il se dit au fond de lui-même, si jamais je reste dans cette armure, eh bien, c'est pas moi qui vais gagner. Parce que en face de moi, avec le Malabar qui se présente bien équipé, c'est fini, dès maintenant. Et il le dit à Saül, c'est pas parce qu'il a en face de lui le François Mitterrand de l'époque. Oui, c'était ça, hein, c'était le chef d'État. Et il est porté son plus beau costume. Et bien qu'il ait été dans son plus beau costume, ce qui n'était pas le lot de n'importe quel soldat, il ne s'est pas dit, puisque j'ai le costume de François Mitterrand, je vais le garder, il est si bien, et il aurait été vaincu. Il a donc remis le costume, il a dit non, je préfère combattre là où je suis vraiment sur mon terrain. Et il a eu cette intelligence spirituelle et ce bon sens de la foi. Non seulement il a été audacieux dans sa foi, mais il a eu le bon sens de la foi. Et il a revêtu ses vêtements de berger. Il est parti avec son bâton. Il n'a pas oublié son bâton. Il n'a pas oublié son bâton. Et ce n'est pas pour rien qu'il ne l'a pas oublié. Non seulement il y avait le problème des bêtes sauvages, des serpents, mais après il a pu utiliser son bâton parce que ça fixait l'ennemi Goliath. Goliath a été intéressé par son bâton. Et il lui a dit, tu viens au-devant de moi avec tes bâtons. Et il voyait le bâton, mais il ne voyait pas la fronde. Et Dieu nous donne du bon sens, c'est pour qu'on l'utilise. Le problème, c'est que parfois dans notre vie chrétienne, nous voulons être tellement spirituels que nous court-circuitons toute dimension de bon sens. Dieu nous a donné des facultés pour les utiliser. Si notre vie est consacrée sur l'autel du Seigneur et que nous démarrons nos journées avec lui, il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas appel à toutes nos facultés pour vraiment être sages. N'est-ce pas? La sagesse, c'est la juste utilisation de nos connaissances. C'est ce sens qui nous permet d'avoir de la saveur dans notre vie, de savoir discerner comment utiliser toutes les bonnes choses que Dieu met à notre disposition et comment éviter de nous occuper des mauvaises choses. Dieu nous veut sages, et David était sage. Puis alors il est allé dans le torrent, et il a cherché des cailloux, et des cailloux qui étaient bien ronds, parce qu'il visait l'efficacité dans le combat. Il fallait que le caillou vole loin, et qu'il ne dévie pas, n'est-ce pas? Et tout cela était fonction du type de caillou utilisé. Et puis il n'en a pas pris qu'un, même pas deux, il en a pris cinq. Ça montre aussi l'humilité de sa foi. Primo, il savait que même en comptant sur le Seigneur, il pouvait manquer le premier coup. Et puis, je suppose qu'il avait regardé dans l'armée, puis il avait vu les têtes qui dépassaient. Parce que Goliath, il avait des petits copains, il avait même des membres de la famille, d'autres textes nous le montrent, qui avaient la même taille que lui. Ah oui, il dépassait. Un, deux, un. Prenons des précautions. Parce que l'esprit de famille, ça peut me coûter cher. C'est beau ce texte. Et alors, on arrive à un moment donné, on voit le jeune David avec sa fronde, son bâton, ses petits cailloux, qui vient, il n'est pas encombré. Et puis le texte nous dit, oh j'aime le texte, on va carrément, je tombe dessus, dans le verset 40, 48, écoutez ça, Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Vous avez vu la différence? La grosse masse, le rouleau compresseur qui se met en mouvement, et puis en face de lui le jeune David, TGV, Mais ça c'est l'intelligence du combat. Un combat qui ne néglige rien, qui met tous les atouts de son côté. Je combats avec les dons que le Seigneur m'a fait. Si je suis berger, je combats avec mes dons de berger. Pourquoi est-ce que je voudrais faire le généralissime? Il faut que nous apprenions à combattre dans notre peau, sur notre terrain, et en mettant le maximum d'atouts de notre côté. C'est une guerre totale. Nous n'avons pas le droit de la livrer en petits amateurs, en dilettantes. Nous ne sommes pas en vacances sur la terre. On vivra de belles vacances au ciel, même si on a beaucoup de boulot. Ce sera tellement extraordinaire de vivre là-haut. Et nous pourrions prendre tant d'autres exemples. J'ai noté justement dans cet ordre d'idées ce qui se passait vers l'année 1400 dans nos pays d'Europe, les Anglais, ces Anglais, la perfide Albion, qui à cette époque tendaient de grands arcs qui portaient loin, et dont les tirs étaient trois fois plus rapides que tout ce qu'on faisait chez nous, vous voyez, à cette époque. Et on avait beaucoup de problèmes, nous, parce que les cavaliers en France, eux, ils tenaient compte de l'armure. Alors, ils avaient des armures, des carapaces articulées qui pesaient couramment, tenez-vous bien, vers 1460 kilos. Je préfère mon complet, C'est plus léger. 60 kilos. au point, n'est-ce pas, qu'il ne pouvait pas se tourner quand il marchait, ni se relever quand il était à terre. Alors, les étrangers avaient trouvé le truc, hein, ils avaient ces personnages barbares qu'on appelait les coutiliers, qui se baladaient à pied avec des couteaux, hein, ces longs machins, là, et puis, crac, ils cherchaient les trous, comme l'autre ne pouvait pas se lever, il ne pouvait pas se retourner, il était là, perdu dans sa grosse armure, il était facile de le clouer au sol. Là encore, ce coup-ci, il vaut la peine, dans la vie de disciples de Christ, si nous voulons être des chrétiens concurrents, de ressembler aux Anglais, pour une fois. Pour une fois. Vous avez... Oh, j'ai beaucoup d'amis parmi les Anglais. Dans Éphésiens 6, verset 11 à 13, vous connaissez ce texte déjà au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Vous savez, en grec, toutes les armes, c'est un mot, un seul. C'est le mot panoplie, qui a donné en français le mot panoplie. C'est intéressant, c'est un singulier. Parce que nous, quand nous considérons ce texte, nous avons tendance... C'est un peu normal, c'est écrit comme ça, à prendre chaque arme et à la séparer des autres. Nous avons perdu de vue la dimension globale de l'armure. Or, vous savez, l'armure du Romain, elle se tenait. Les choses étaient associées dans cette armure. Là où nous avons tendance à les séparer. Et en plus de cela, nous allons y venir dans un instant, on ne concevait pas le soldat romain tout seul. C'est un pluriel dans le texte d'Éphésiens 6. Nous sommes tellement individualistes en France que lorsque nous lisons Éphésiens 6, nous mettons automatiquement le texte à la deuxième personne du singulier. Or, c'est un pluriel. C'est-à-dire que l'apôtre Paul prend soin de s'adresser à une armée. L'Église, dans ce sens, est une armée. C'est un tissu d'hommes et de femmes qui forment une armée et qui doivent faire la tortue, n'est-ce pas, comme chez les Romains, qui doivent manœuvrer ensemble, etc. C'est comme cela qu'il faut voir ce texte d'Éphésiens 6. Et ne pas dissocier les armes les unes des autres. Quelqu'un a écrit ceci, « Certains vont au combat avec seulement le casque du salut, en se disant qu'après tout, c'est l'essentiel. » Et ils l'enfoncent tellement qu'ils n'entendent plus rien et qu'ils ne voient plus rien. Ce qui peut conduire à la catastrophe. Ou bien... On privilégie l'épée de l'esprit, c'est quelque chose de bien porté, dont on assène de grands coups, pas toujours avec le tact et le discernement nécessaires, oubliant que pour la marche et avant de s'en servir au temps opportun, l'épée était accrochée à la ceinture de la vérité. Ça va ensemble. Cette manière de tout cloisonner, d'autant plus avec notre petit esprit très logique, là où la Bible met le tout ensemble. Le commentateur ajoute, cette ceinture était indispensable aux pèlerins pour le maintenir debout et retenir les pans de sa tunique. De même, la vérité est la seule base sur laquelle les promesses de Dieu peuvent s'accomplir pour nous. Je prends un dernier exemple qui est cher à mon cœur, puisque nous avons eu le privilège de travailler en famille pendant une dizaine d'années en Bretagne. Et... je suis très vexé quand je pense à cette belle province de Bretagne et à son histoire. Parce que en 56 avant Jésus-Christ, les Romains se sont attaqués à l'Armorique, comme on l'appelait, sous le commandement, bien entendu, de Jules César. Et à l'époque, ce n'étaient pas les Bretons qui étaient là-bas, mais les Vénètes. Les Vénètes... qui était à la tête d'une magnifique flotte de bateaux, de chaînes, aux voiles de cuir, des géants, en face des petites coquilles romaines. Vous voyez que la réputation de fin marin liée à la Bretagne date de fort longtemps en arrière. Et bien sûr, les Romains tremblaient et se demandaient comment ils allaient faire pour venir à bout de cette province
tenue par les Vénètes. Et les Vénètes étaient tellement conscients de leur supériorité qu'ils avaient négligé même de prendre des armes à bord. Oui. Ils avaient négligé de prendre des armes à bord. Ils comptaient sur Éole, certainement, le dieu des vents. Et les manœuvres ont commencé, les Vénètes avaient le dessus, bien entendu. Comment pouvait-il en être autrement? Alors jusque-là, en général, quand vous racontez ça à un Breton, il est très très heureux. Et c'est après que ça se gâte. Tout simplement parce que le vent, le dieu Éole, les a lâchés. Le vent est tombé. Et à ce moment-là, les Romains, qui n'étaient pas si fous que ça, et qui avaient quand même repéré le truc, ils avaient trouvé. Les Romains avaient fabriqué des perches surmontées de faux de paysans. Oui, c'est les fossiles de paysans. Et ils sont allés couper les vergues, et ils sont montés à l'assaut, et ils ont massacré impitoyablement ces Vénètes qui étaient désormais cloués sur leurs grosses embarcations, complètement immobilisées sans vent. Et c'est comme ça que l'Armorik a été prise. Vous voyez, cette importance du vent de l'esprit qui s'associe toujours aux armes utilisées par le croyant. Pas d'armes, pas de vent. Guerre totale. Nous sommes engagés dans une guerre totale. Ce sont toutes nos facultés que nous devons mettre sur l'autel. Quatrième remarque, il s'agit, nous l'avons laissé entendre, d'un combat d'équipe. Nous avons déjà parlé dans notre introduction hier d'équipe. Mais ici, cette notion d'équipe est très forte, puisque vous avez donc Josué dans la plaine avec son armée, et sur la colline, ces trois hommes, Moïse, Aaron et Hur. Et j'aimerais ici souligner au passage combien la notion de l'Église est primordiale. L'Église. Et il faudrait prendre beaucoup de temps pour évoquer l'importance de l'Église. Parce que nous sommes dans un temps aussi où on fait facilement l'Église buissonnière. On aime, comme Robinson Crusoe, aller se promener ailleurs. L'évangélique français est très individualiste. Et il l'est de plus en plus. Et cette identification à une église locale est quelque chose qui souffre beaucoup en France. Alors que l'église locale est d'une importance absolument capitale. J'aimerais ici faire remarquer plusieurs choses. Tout d'abord, cette petite illustration qui m'a beaucoup frappé, qui n'a rien à voir avec l'Église, mais qui m'a rappelé une leçon importante concernant l'Église. J'ai lu à quelque part ceci, il y a dans tout bateau des éléments qui prient séparément coulent à pic. La machine, ou l'hélice, ou le moteur, mais qui, rassemblés, flottent. C'est vrai. C'est vrai, quand vous voyez certaines des pièces de ces gros bateaux, et vous vous dites qu'effectivement, si vous les détachez de l'ensemble, ça coule. Et l'auteur de conclure, mais l'ensemble forme un petit navire qui va quelque part. Et l'Église est très importante, n'est-ce pas? Si nous négligeons l'Église locale, nous courons le risque de très vite couler dans notre vie personnelle. Pourquoi? Parce que nous perdons l'avantage, le bénéfice de ce bouclier protecteur que représente le tissu de l'Église locale. L'Église locale est un véritable bouclier protecteur. Vous savez que la plus terrible des manières de sanctionner une désobéissance persistante et scandaleuse chez un disciple de Christ, c'est de l'exclure de la communauté locale. Lorsque l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 5, parlait de livrer cet homme qui vivait en inceste, n'est-ce pas, de le livrer à Satan, c'était ce qu'il voulait dire. Le livrer à Satan, c'était l'exclure simplement de la communauté locale. Pourquoi? parce qu'il perdait tout l'avantage lié à la communion fraternelle. Bénéfice de la prière réciproque, bénéfice de l'enseignement, de l'exhortation réciproque, tous les bénéfices qui sont liés à nos vies d'église locale. Et l'ennemi, alors, peut concentrer son tir sur une personne qui, désormais, est à découvert. Bien entendu, l'apôtre Paul souhaitait que, dans ces moments terribles qu'allait connaître cet homme, il aurait vraiment envie de se tourner à nouveau vers Jésus-Christ. Et si cela n'était pas, au moins, il ne pourrait pas aller plus loin dans certaines de ses attitudes, parce que peut-être même la mort suivrait très rapidement. Mais voyez, un texte qui montre l'importance de l'Église locale. Vous savez que le terme « saint », qui figure 61 fois, je crois, dans le Nouveau Testament, non pas comme adjectif, mais comme nom, n'est jamais au singulier. Toujours au pluriel. Le saint, ça n'existe pas. Il n'y a que dans la doctrine catholique que le saint existe. Mais dans la parole de Dieu, le saint n'existe pas. Tout est vu au pluriel. Au pluriel. Puis ce terme frère, qui revient quelque 200 fois dans le Nouveau Testament, et qui est d'une très grande richesse, tout nous tourne vers cette collégialité, cette vie ensemble, cette marche les uns avec les autres. Je ne sais pas si au Geisberg j'avais raconté cette histoire, mais elle m'a tellement interpellé aux Antilles lors d'une série sur l'Église, après avoir parlé de l'importance de l'Église locale. Un ancien est venu me voir à Pointe-à-Pitre à la fin d'une des réunions pour me dire, vous savez, j'ai vécu cette semaine un événement qui m'a été rappelé par votre message ce soir. Et il a alors évoqué le drame d'un homme qui, en travaillant avec son coupe-coupe, s'était tranché un orteil. Et aussitôt, bien sûr, on l'avait transporté à l'hôpital le plus proche. Le chirurgien a dit, écoutez, est-ce que vous avez l'orteil? On n'avait pas l'orteil. Et comme l'accident venait tout juste d'avoir lieu, qu'il y avait très peu de distance entre le lieu de l'accident et l'hôpital, le chirurgien a dit, écoutez, si vous réussissez encore à récupérer cet orteil dans les toutes prochaines minutes, nous avons encore quelque chose de pouvoir obtenir satisfaction en le regreffant. Alors, les amis de la victime sont partis ventre à terre, n'est-ce pas, jusqu'au lieu de l'accident, et ont commencé à interpeller, est-ce que vous n'avez pas vu l'orteil de monsieur? Ça devient très intéressant. Et puis, finalement, quelqu'un a dit, écoutez, ne cherchez pas, ça ne sert à rien, j'ai vu un chat passer par là. Non, sérieusement, j'ai vu un chat passer par là. Ça vaut pas la peine de chercher. Ça, c'est ce que nous risquons, n'est-ce pas, dans notre combat contre la puissance des ténèbres, parce que nous n'avons pas affaire à un chat, nous l'avons lu, nous avons affaire à un lion. À un lion. Et de la même manière qu'on ne voit pas en Alsace, pas plus qu'ailleurs, des oreilles se promener toutes seules dans la rue, ou des langues, il ne faut pas qu'un disciple de Christ, membre d'un corps, se permette le luxe d'aller se promener tout seul, en dehors de ce tissu de l'Église locale. Une vie d'équipe, une vie d'équipe. Avec cette précision qui, personnellement, m'a fait beaucoup de bien, on fait beaucoup d'histoires hein, depuis qu'on est ensemble, c'est le fameux grand capitaine Henri de Turenne qui, dans ses lettres, quand il parlait d'une victoire, disait « Nous l'avons remportée, nous !» Nous l'avons remportée. Mais quand il parlait d'une défaite, il disait « J'ai été battu. » Nous l'avons remporté. Quelle grâce que Dieu nous donne d'avoir cette attitude. Alors j'espère que vous êtes centrés sur cette vie de l'Église locale. Et qu'il n'y aura pas besoin dans votre Église, si elle grandit encore, de construire un balcon. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on construit les balcons? J'espère que vous savez pourquoi. C'était un pasteur qui a dit à un architecte, écoutez, vous mettrez un balcon dans l'église. Ah bon, vous mettrez un balcon, oui, ah, tiens, tiens. Alors, lui a dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut mettre un balcon? Mais vous mettrez un balcon pour les esprits. Oh, l'architecte était de plus en plus inquiet, il pensait travailler pour une église évangélique, et il s'est dit à ce moment-là qu'il travaillait pour une secte. Qu'est-ce que vous voulez dire par esprit? Mais oui, c'est très simple, il faut réserver des places à ceux qui seront avec nous en esprit le dimanche. Parce que vous avez des gens, hein, quand vous allez les voir, « Ah écoutez, je ne pourrai pas être avec vous dimanche pour le culte, mais je serai avec vous en esprit. Hein? » Alors il faut faire un balcon pour ceux qui sont avec nous en esprit. Cinquième remarque, le combat est tenace et persévérant. Il nous est dit que, notamment sur la colline, ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et cela veut dire que, sur le champ de bataille, on s'est battu aussi jusqu'au coucher du soleil. C'est un combat permanent. C'est un combat permanent avec ses avancées, ses percées, ses reculades, ses fluctuations. Je dirais par moments ses échecs, parce qu'il y a eu des échecs. Il y a des moments où il y a eu la panne. Et où Jésus a tremblé parce que il y avait des revers. Et là encore, il faut que nous soyons réalistes. Il y aura des revers, il y a des échecs, et j'aimerais tant vous parler de l'importance de savoir comment réagir vis-à-vis de nos échecs, parce que nous ne savons pas toujours bien réagir vis-à-vis de nos échecs. Et il faut apprendre à bien réagir vis-à-vis de ces échecs, et ne pas être courbé dans la poussière pendant des mois, parce qu'on n'arrive pas à accepter ces échecs. Les échecs doivent être un tremplin pour aller plus loin avec le Seigneur. 7 fois le juste tombe et il se relève, disent les Écritures. Et il faut faire de nos échecs des tremplins pour continuer à grandir et pour aller plus loin. C'est inévitable dans notre croissance, dans notre avance, mais il est nécessaire d'être ferme, d'avoir de la constance et de la stabilité. Dans une excellente biographie de Leclerc, voilà ce que dit ce grand stratège. Quelle sera dans cette guerre qui a toutes les chances de devenir mondiale, et l'est devenue, celui qui gagnera? Sera-ce le combattant dit très gonflé, mais vite dégonflé? Non. Ce sera celui qui aura assez de force morale et physique pour tenir. Ce ne seront pas les agités demandant tous les 6 mois à changer d'armes, de colonies ou d'unités qui nous aideront à gagner la guerre. Ils s'écrouleront au premier échec. Ce seront les tempéraments solides et stables, faisant toujours passer l'intérêt général avant leur intérêt particulier. Vous savez, ce sont des paroles qui ont un sens très biblique, une connotation très biblique. Et là encore, nous avons tendance aujourd'hui à vivre soit un christianisme tellement cérébral, soit un christianisme tellement émotionnel, sentimental, subjectif, que nous sommes d'une fragilité terrible dans notre vie avec Christ. Dieu a besoin d'hommes et de femmes stables, qui ne visent pas les coups d'éclat, qui ne visent pas simplement de gagner ici et là une petite bataille, mais de mener à bien avec lui une guerre qui prend du temps, dont heureusement nous connaissons l'aboutissement. Quelqu'un écrit ceci, « La sainteté n'est pas une faveur qu'on pourrait recevoir une fois pour toutes. Elle est une conquête par étapes progressives qui s'achève de l'autre côté du voile, là où, selon les termes du Saint-Esprit, de Saint Paul, pardon, nous atteindrons la stature parfaite de Christ. » Il y a toujours un nouveau terrain à conquérir. Il y a toujours une nouvelle victoire à remporter. Le texte dit qu'il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Et nous sommes tellement tentés dans notre vie avec Christ de nous arrêter en cours de route. Un véritable homme de Dieu, une véritable femme de Dieu, c'est quelqu'un qui ne cesse jamais de chercher. Il cherche Dieu, il le trouve. Il ne s'arrête pas là, il le cherche encore. Il ne s'arrête pas à ses acquis. Oh, que Dieu nous donne d'être jusqu'au bout des hommes et des femmes qui cherchent Dieu, qui luttent. Que nous ne prenions pas dans ce domaine notre retraite. Il n'y a pas de retraite sur la terre. Il n'y a pas un moment où on puisse dire, bon, maintenant, l'heure est venue de laisser les autres, hein, et puis je me laisse aller. Certes, notre service peut changer. Il arrive un moment où nous laissons les places de première ligne à d'autres pour le combat. Mais cela ne veut pas dire qu'à l'arrière, nous ne continuions pas à être vigilants et à lutter jusqu'au bout. Il y a quelques années, dans un premier voyage à La Réunion et à Madagascar, j'avais commencé par avoir toute une série de conférences dans l'île de Madagascar. Et ça avait été très encourageant. L'œuvre de Dieu est assez extraordinaire là-bas, toutes ces dernières années. Et je dirais que l'action de Dieu et le souffle de l'Esprit de Dieu est inversement ou est équivalent à l'état de pauvreté et de crise sociale. Madagascar est maintenant un des pays les plus pauvres du monde. Et c'est quelque chose de profondément bouleversant et poignant de connaître un peu son histoire. J'ai visité cette île à deux reprises. Je vais y retourner là dans 3 semaines. Et c'est poignant. Mais l'œuvre de Dieu, ce que Dieu fait dans cette île, qui est plus grande que la France, c'est extraordinaire. Et j'avais vraiment vu la main de Dieu, la grâce de Dieu puissamment à l'œuvre pendant mon séjour là-bas. Et ensuite, je partais donc pour l'île de La Réunion, qui est à 800 kilomètres de là. Et dans l'avion, je me préparais devant le Seigneur à aborder tout mon programme dans l'île de La Réunion. Et ce jour-là, ma méditation m'a amené à une anecdote qui a été pour moi vraiment un appel à la vigilance. Je pensais à tout ce que je venais de vivre, c'était tellement frais dans mon cœur. Et bien sûr, on est toujours tenté de vivre sur son passé, n'est-ce pas ? Quand le Seigneur a béni. Et j'avais sous les yeux, à ce moment-là, une réflexion du général Gordon, à la tête d'une armée au Soudan, et qui avait assigné à un de ses officiers la tâche de prendre une solide forteresse. Et après plusieurs jours d'un combat dur et exigeant, cet officier revient au quartier général, il entre dans le camp au galop, il arrête son cheval devant le général Gordon, il fait son salut et il annonce « Général, j'ai pris le fort !» Et son commandant de répliquer calmement « Allez en prendre un autre !» Alors je vous assure que, assis à ma place dans l'avion, j'ai compris le message. Maurice, Madagascar, c'est derrière. Il faut prendre un autre fort, et tu as besoin du Seigneur, ne t'appuie pas sur ce qui s'est passé. Et dans notre vie, c'est comme ça. Vous savez combien on peut être béni dans une série de réunions pendant un week-end, le Seigneur nous parle, on se fait du bien, on est sur les sommets, et puis vous savez, le lundi... Alors, souvenons-nous, dimanche, hein, à la fin du culte, allons prendre un autre fort. Hein. Le Seigneur est bon de nous mettre ensemble, c'est bienfaisant. Le serviteur qui parle se fait autant de bien au moins que ceux qui reçoivent. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais ne nous installons pas dans le passé. Hein. C'est après la montagne de transfiguration qu'il y a eu cette vallée du lunatique. Hein. Cet échec des disciples restés dans la plaine. Mais ça a remis la tête sur les épaules à ceux qui étaient montés là-haut. Hein. Quand ils sont arrivés en bas et qu'ils ont vu la situation, alors ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas encore au ciel, même si le ciel s'était entrouvert pour eux. Sixièmement, et ça fait du bien, c'est le combat de l'espérance. Un disciple de Christ conquérant peut l'être parce qu'il vit le combat de l'espérance. Son issue est certaine, verset 14, déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. J'effacerai. C'est Dieu qui parle. J'effacerai. Le côté enthousiasmant, le côté qui nous communique un moral de vainqueur, la promesse d'une victoire définitive. Savez-vous quelle était la devise du maréchal Delattre de Tassigny, dont tant de rues de nos villes porte le nom. Une belle devise. Ne pas subir. Ne pas subir. Et un disciple de Jésus-Christ ne veut pas subir simplement. Il veut avoir un moral de vainqueur. Ne pas subir. J'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux, même le faux prophète Balaam. Dans Nombre 24, verset 20, est obligé de dire, malgré lui, Amalek est la première des nations, mais un jour, il sera détruit. Mais un jour, il sera détruit. C'est le combat de Dieu. C'est le combat de Dieu. Et cela m'encourage. Et c'est vrai qu'Amalek, qui a été constamment hostile à Israël jusqu'au règne d'Ézéchias, c'est-à-dire pratiquement jusqu'en 700 avant Jésus-Christ, à peu près, voyez. Eh bien, Amalek, du temps d'Ézéchias, finalement, a été complètement vaincu. 1 Chronique 4, versets 41 à 43. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que nous savons que Satan a déjà été vaincu depuis Golgotha. Nous le savons. Et il fait bon le dire, lorsque Christ reviendra, eh bien l'ennemi aura brûlé ses dernières cartouches, joué ses derniers coups. La victoire sera totale sur le terrain. C'est un petit peu comme dans une partie d'échecs. Il arrive un moment où on sait que l'autre a perdu. Oh, la partie peut parfois durer encore pas mal de temps. L'autre va essayer. Mais on sait que il faudra un coup, deux coups, trois coups, peut-être plus, mais il est vaincu. Et c'est ainsi aujourd'hui. L'ennemi joue ses derniers coups, mais il a été frappé à mort à la croix. Il a été frappé à mort à la croix. Vous connaissez Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les autorités, les dominations, en les livrant publiquement en spectacle à la croix. Il a triomphé d'elle par la croix. Oh, j'aime cela. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau d'abord, ensuite à cause de la parole de leur témoignage, et enfin parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous connaissez ce texte, hein, d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Et il faut le souligner parce que actuellement, vous le savez peut-être, court dans les rangs évangéliques une littérature qui donne à la puissance des ténèbres une place qui ne lui revient pas. Et comme c'est une littérature à sensation qui excite ce qu'on appelle le voyeurisme évangélique, parce qu'on aime ce qui est pimenté, trop d'évangéliques mordent à pleines dents ce genre de littérature. Et on mord à pleines dents ce genre de littérature qui parle de la puissance des ténèbres sous toutes ses coutures. On mord à pleines dents parce que ces mêmes livres contiennent des éléments positifs, très valables. La parole de Dieu nous dit ceci, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Et c'est pas parce qu'un auteur, même Maurice Decker dans son bouquin, c'est pas parce qu'un auteur écrit des choses très justes qu'on doit tout avaler. Loin de là. Nous devons toujours examiner à la lumière des Écritures et de l'ensemble des Écritures ce qui nous est proposé comme lecture. Surtout à l'heure actuelle, où jamais l'ennemi ne s'est manifesté de manière aussi subtile pour nous faire avaler des choses qui ont ensuite une influence néfaste et sur notre vie et sur celle de notre entourage. Alors si vous tombez sur ces livres et que vous êtes amené à les lire, premièrement, demandez d'abord au Seigneur si vous devez les lire. Parce qu'il y a des livres qui actuellement sont de véritables démolisseurs, de personnes fragiles, qui ont besoin d'autres choses pour être maintenues dans une vie de victoire. Et si jamais vous les lisez, lisez-les Bible en main, pour ne pas avaler n'importe quoi. Je ne veux pas entrer ici dans trop de détails à ce sujet, mais il y a des critères dans les Écritures pour parler de la puissance des ténèbres. Et pour moi, un des critères fondamentaux, c'est celui-ci, j'accepte un livre qui parle de la puissance des ténèbres comme la Bible en parle. Or, quand la Bible parle de la puissance des ténèbres et de son activité, elle en parle avec sobriété. Quand il est question du démoniaque de Gadara, il est dit qu'il était dans les sépulcres, qu'il était nu, qu'il rompait toutes les chaînes, qu'il hurlait, et puis c'est tout. Il faisait certainement un tas d'autres choses qui n'étaient pas belles. Mais l'évangéliste a été conduit par le Saint-Esprit pour écrire les choses avec sobriété, de manière à ce que personne ne puisse être choqué, scandalisé ou conduit à son tour dans le trouble et dans le péché. Chaque fois que nous lisons un livre qui raconte toutes les turpitudes et les choses les plus horribles que la puissance des ténèbres est capable de faire, et qui y ajoute peut-être les fantasmes des personnes qui écrivent à ce sujet, parce que c'est aussi possible. Allons voir dans les Écritures pour voir si c'est le ton que la Bible utilise pour parler de ce sujet. Et puis voyons comment les versets de la Bible sont interprétés. Est-ce qu'ils sont sortis de leur contexte ou non ? Et voyons si c'est l'esprit de victoire qui prévaut, ou bien si ces livres vous mettent sous un joug négatif et oppresseur, au point que vous finissez ensuite par voir le diable partout et par voir le diable vainqueur. Ce n'est pas la vision que le disciple de Jésus-Christ doit avoir de la puissance des ténèbres. Là encore, nous devons être équilibrés. D'une part, nous devons proclamer et vivre sur la base de la victoire qui nous a été obtenue à la croix et dans la résurrection et l'élévation de Jésus-Christ. Nous sommes en Christ, dans les lieux célestes, au-dessus de la puissance des ténèbres. C'est notre privilège. Mais en même temps, comme nous le disions tout à l'heure, nous devons nous souvenir que tant que le diable n'aura pas été lié, il est vaincu, mais il agit encore. Sous le contrôle absolu de Dieu, il agit encore. Vous savez que j'ai lu un article, ça s'est passé le 13 juin 1980, un cultivateur qui fauchait de l'herbe et qui, accidentellement, il coupe un serpent, juste en fauchant, il coupe un serpent en deux, une vipère. Et bien sûr, quand il se rend compte de la chose, il veut prendre les deux morceaux de vipère pour les mettre dans un sac. Et la vipère était donc décapitée. Et quand il a pris la partie qui avait la tête, il s'est fait mordre par la vipère et il a dû aller se faire soigner. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, il avait eu ce dernier élan, en quelque sorte, et avait encore pu mordre cet homme au moment où il ne s'y attendait plus. Et si vous suivez les informations, il y a eu, il y a quelques années, une corrida très célèbre en Espagne, où le toréador s'est fait embrocher, je crois même mortellement, par le taureau qu'il venait de tuer. Le taureau s'est effondré, n'est-ce pas ? Il pensait qu'il était mort, et puis il a eu un dernier sursaut, il a envoyé un de ses coups de corne qui a pratiquement transpercé ce toréador qui était en train d'être acclamé par la foule. Alors d'un côté, vigilance. Il est là, il agit, il se déguise, nous l'avons dit. Mais de l'autre côté, réjouissance, joie, esprit de victoire, parce qu'il a été vaincu. Il a été vaincu. C'est notre bonheur. Nous n'avons pas à avoir peur de la puissance des ténèbres. Nous n'avons pas à dialoguer avec elle, à discuter avec elle. Nous avons à fuir la puissance des ténèbres, mais nous n'avons pas du matin au soir à trembler devant elle. Nous en avons été délivrés, nous sommes du bon côté. Le Seigneur est là pour nous garder, pour nous protéger. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Septièmement, nous allons terminer. Notre combat s'appuie sur les promesses de Dieu. Notre combat s'appuie sur les promesses de Dieu, c'est le combat de la foi. Il est dit au verset 14, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve dans le livre. » Ça, c'est ce que disait Walter Scott à son fils. « Amène-moi le livre. » Alors son fils, de lui dire, il était mourant. Son fils de lui dire, « Mais quel livre ?» Le livre. C'était la Bible. Le livre. Nous nous appuyons sur les promesses de Dieu, les promesses de victoire pour avoir un moral de vainqueur. À celui qui vaincra, vous connaissez hein, ces textes, Apocalypse chapitre 2 et 3, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, et cela revient continuellement. Je pense à ceux d'entre nous qui sont les plus jeunes ici, Jean 2, 14, dans les différents âges spirituels de la croissance du chrétien. Je vous ai écrit, jeunes gens, qui va me dire la suite, parmi les jeunes? Je vous ai écrit, jeunes gens. Ça, c'est un verset qu'on doit savoir par cœur. Vous en faites pas, je ne vais pas vous passer à la moulinette, je ne saurais pas comment faire. Est-ce que quelqu'un le sait? Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que... Alors, ça commence par, vous êtes fort. Et ensuite, vous avez vaincu le malin. Et puis, parce que... Ah, c'est le plus important. Parce que la parole de Dieu demeure en vous. On le répétera demain soir, hein? Il faut le savoir par cœur, il faut par moment le dire devant la puissance des ténèbres. Hein. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin. Et la parole de Dieu demeure en vous. L'un est déterminé par l'autre. La parole de Dieu demeure en nous. Et puis vous avez cet autre texte, n'est-ce pas? L'esprit qui est en nous, n'est-ce pas? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez ces différents textes dans la première épître de Jean. Ce sont des textes extraordinaires dans cette épître. Je crois qu'il faut qu'on les lise parce qu'ils sont trop beaux. Chapitre 3, verset 8. Il est dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire, on pourrait traduire désagréger, les œuvres du diable. La bombe atomique est passée par là. Désagréger les œuvres du diable. Chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Chapitre 5, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, il ne vit pas de manière permanente dans le péché. Il ne pratique pas le péché, c'est un présent continuel dans le texte original, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alors là, c'est intéressant parce qu'il se trouve que nous avons des manuscrits donc de ces textes, des vieux manuscrits, et dans un manuscrit, vous avez un petit mot, dans l'autre, vous avez le même petit mot, mais avec une lettre en moins. Ce qui fait que vous avez des versions du Nouveau Testament dans lesquelles vous avez un texte légèrement différent. Ici, vous avez donc le malin, celui qui est né de Dieu, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et puis dans l'autre manuscrit où vous avez une petite lettre de plus, un « e » grec en plus, il est dit que celui qui est né de Dieu ou celui qui est engendré de Dieu, c'est le même terme, celui qui est engendré de Dieu le garde, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ le garde, celui qui est engendré de Dieu. Vous avez simplement une lettre de différence. Et je crois que les deux manuscrits ont raison. D'une part, nous devons nous garder nous-mêmes, être vigilants, mais d'autre part, Jésus-Christ nous garde, n'est-ce pas? Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, ou celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. Oh, je bénis Dieu pour ces versets de victoire absolument extraordinaire. Je crois que nous allons nous arrêter là, parce que je vous ai parlé de fatigue hier. Nous prendrons la conclusion demain, puis nous aborderons notre autre texte. Il importe que vous puissiez aussi assimiler, mettre tout cela devant le Seigneur, le serrer dans votre cœur. Nous avons vu beaucoup de choses ce soir. Mais je suis heureux de terminer sur cette note-là. Une note de victoire. Nous avons un Dieu extraordinaire, une parole extraordinaire. Il importe que nous la serrions dans notre cœur. Vous savez peut-être que la devise de l'école militaire de Saint-Cyr est celle-ci, ils s'instruisent pour vaincre. Ils s'instruisent pour vaincre.